Bon matin tout le monde. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de prédication. Ce temps où l'on rouvre la parole de Dieu et on veut que le Seigneur nous parle pour aujourd'hui. Et nous allons tourner dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 8. Le chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 6. Exode, chapitre 8, 1 à 6. Et le titre de la prédication aujourd'hui, Demain, Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement, ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « À toi l'honneur de me fixer le moment où je dois intercéder pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple. » afin que le Seigneur retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, demain. Si je résumerais un peu le message d'aujourd'hui, il peut être dangereux de s'en remettre au lendemain. Le contexte, le peuple juif, on sait que le peuple juif est en esclave dans le pays d'Égypte pendant à peu près 4 siècles. On parle de 1700 à environ 1280 avant Jésus-Christ. Et on sait que Moïse est envoyé par Dieu pour le libérer. Mais le pharaon refuse. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand Dieu demande quelque chose à un serviteur, le serviteur le fait. Et il y a des opposants. Alors Dieu peut envoyer des châtiments. Dieu peut envoyer il peut même envoyer un jugement. Alors on sait qu'il y a des plaies qui frappent le pays. Ici dans le chapitre 8, nous sommes rendus à la deuxième plaie. L'invasion de grenouilles dans le palais, dans les chambres, dans les maisons. La Bible dit, elles monteront sur toi et tes serviteurs. Alors, Aaron étendit sa verge, il y a des grenouilles qui montent. Il y a des gens qui ont, des historiens qui ont dit, qui ont écrit, qui ont raconté que c'était probablement quelque chose qu'il y avait dans les eaux. Parce qu'on sait que dans la première plaie, les rivières ont été, le Nil a été changé, l'eau a été changée en sang. Alors les grenouilles se sont enfuies de leur marécage et c'est une histoire, mais si on y va avec le texte, c'est que Aaron étendit sa verge, il y a des grenouilles, et les magiciens en firent autant. Alors il y a d'autres grenouilles qui arrivent. Là, c'est deux fois plus, là. Et on voit que c'est plus qu'un débordement. On parle d'une épidémie, là. On parle de probablement de millions de grenouilles. Parce que le Pharaon s'en remet à Moïse et dit « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. » Alors, on voit que le Pharaon est exaspéré, là. Quand Dieu envoie un fléau, quand Dieu envoie une plaie, c'est quelque chose. Je lisais dernièrement dans le site l'agence Science Presse, et je cite, « Pendant qu'on parle de coronavirus, une autre épidémie, partie d'Arabie Saoudite, atteint à présent l'Afrique de l'Est et l'Asie du Sud. Une épidémie composée de milliards de criquets pèlerins, appelée aussi sauterelle du désert, comme on n'en a pas vu depuis un quart de siècle. Et sachant qu'un criquet pèlerin mange son propre poids chaque jour, ce sont les récoltes sur deux continents qui sont à présent visées. On parle du blé, de l'orge, du maïs. Et du coup, la seule source d'alimentation de dizaines de millions de personnes. L'épidémie atteint à présent 15 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud, du Congo jusqu'au Pakistan, selon l'Organisation des Nations Unies de l'agriculture. Psaume 105, verset 30, il est dit « Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. » Alors, vous voyez que il n'y a rien de nouveau. Même aujourd'hui, des épidémies de sauterelles, il y a des milliards de sauterelles. Est-ce que ça vient de Dieu? Je ne sais pas. Mais on peut penser que lorsque Dieu envoie un fléau, que des milliers, voire des millions de grenouilles, ça peut être possible. Alors, le pays en est infecté, t'en as partout. Alors, on a un problème. Et pour les Égyptiens, c'est un problème. Parce que t'as bien beau faire venir un groupe d'exterminateurs, mais pour l'Égypte, pour les Égyptiens, la grenouille, c'est un animal sacré. On peut pas tuer une grenouille en Égypte. Dans ce temps-là. La grenouille était l'emblème de la déesse Hécate, qui est le symbole de la vie, la déesse de la fertilité, la protectrice du fœtus et du nouveau-né. Et cette déesse-là était une femme avec une tête de grenouille. On l'appelait la protectrice des femmes qui sont enceintes. Quand on se reporte un peu dans les textes anciens, dans l'Antiquité, on parle de peut-être 4000 ans avant Jésus-Christ, les figurines des dieux sumériens, on parle des premières civilisations, les sumériens, les figurines des dieux sumériens étaient des représentations d'humanoïdes ressemblant à des reptiles ou des lézards, selon les écrits. Alors, il y avait un culte pour ce genre de divinité-là, et il y avait un culte pour ce genre d'animaux-là en Égypte. Et c'est intéressant ce que le pharaon a dit, parce que Moïse, il dit, quand est-ce que tu veux que ça s'arrête? Puis moi, personnellement, j'aurais dit, on est tanné, là, immédiatement. On veut s'en débarrasser le plus tôt possible. Et le pharaon répond demain. Et j'aimerais appliquer ce genre de réponse-là à trois catégories de personnes aujourd'hui. Premièrement, les gens, le monde, la société. Vous savez, dans le contexte, la grenouille, c'est pas un animal qui est très très beau. C'est C'est pas un animal qui a une intelligence vraiment développée. Contrairement à certains oiseaux, que tu peux avoir un quotient qui ressemble à un enfant de 2 ans. Puis dans la Bible, la grenouille, c'est associé à la souillure du monde, aux souillures du monde, au péché. On parle dans le livre de l'Apocalypse, on parle d'esprits impurs qui ressemblent à des grenouilles. Et non pas des esprits impurs qui ressemblent à des colombes, à une colombe. Vous ne verrez pas ça dans la parole de Dieu. Et en passant, il y a plusieurs récits de gens et même de chrétiens. Vous y croyez, vous ne y croyez pas, ça m'est égal, mais je sais que j'ai lu beaucoup sur ces choses-là. Des gens qui ont eu des visions du monde invisible, du monde démoniaque, qui mentionnent tous, sans exception, des esprits, appelez-les comme vous voulez, des démons, des esprits impurs, ayant des têtes en forme de grenouille, en forme de lézard. Alors, ce que je veux dire ici, c'est ce qu'on voit, ce qu'on peut voir, les grenouilles qui fourmillent comme ça dans le pays d'Égypte. On peut amener ça, on peut comparer ça peut-être aux souillures du monde, aux péchés, comme si les grenouilles, les Égyptiens sont dans leur... sont pleins, il y a plein de grenouilles, il y a plein de sont infectés. C'est un peu comme la société d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui qui sont dans la souillure, dans le péché, dans les mauvaises choses, autrement dit, qui ruinent et qui détruisent la santé, la vie de famille et leur progéniture. Psaume 78, verset 45, c'est écrit « Les grenouilles qui les détruisirent ». Il n'améliorait pas la vie en Égypte, ça détruisait. Tout comme les souillures du monde sont là pour nous détruire, qui détruit la santé, le travail, l'aspect communautaire. Peut-être que cela nous fait penser à notre situation que l'on vit. Hein? On est confronté, pas nécessairement à des grenouilles, mais on est confronté à une épidémie, à quelque chose, à un virus présentement. Et tout le monde, sans exception, les gens disent « ça va mieux aller demain ». Ça va mieux aller, c'est une question de temps. Quelqu'un me disait cette semaine, Paul André, c'est une question de temps, tu vas voir, ça, tout va se régler. Demain, comme le pharaon, et quand on prêche l'évangile aux gens, ils ont la même réaction. Demain. Jésus a dit, venez tous à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est un peu ce que Moïse a dit à Pharaon. Je vais vous en débarrasser tout de suite, là. Mais Pharaon a dit demain. Et les gens, quand on emmène l'évangile, ils disent demain. Avec des apôtres, chapitre 17. L'apôtre Paul était à Athènes. En attendant ses compagnons, Athènes, à cette époque-là, c'est une brillante métropole des sciences, de la littérature et des arts. C'est une ville de connaissances. On a beaucoup de choses que l'on fait aujourd'hui qui vient de la Grèce de l'époque. Les Romains ont appris beaucoup de choses de la Grèce. Alors, c'était une brillante, effectivement, une brillante métropole des sciences, de la littérature, des arts. C'est une ville de connaissances. Il y avait une place publique où il y avait tout le temps des gens qui parlaient, des philosophes. On parle des philosophes grecs. Et Paul est là, il annonce l'évangile. Les hommes doivent se repentir. Il parle d'un jugement. Il parle de l'évangile de Christ. Il n'a pas le temps de finir son discours. Qu'est-ce que les gens disent? nous t'entendrons là-dessus une autre fois.
Mais là...
Demain. Un petit peu plus loin, on est dans l'Acte des Apôtres également, chapitre 24. Paul est à Césarée, en train d'être jugé devant le gouverneur Félix. Lui et sa femme, qui était juive, le font appeler. Alors, elle connaissait les traditions la tradition juive. Alors, Paul annonce l'Évangile au gouverneur, parle de justice, de tempérance et de jugement. Et Félix, effrayé, lui dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Paul a été détenu 2 ans. Il n'a jamais été rappelé. Demain, même chose. Je te rappellerai demain. Il a remis ça demain. On continue un peu plus loin, l'Acte des Apôtres, chapitre 26. Paul comparait devant le roi Agrippa, témoignage de l'Évangile, et à un moment donné, il dit au roi, « Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa lui dit, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien? » Et Paul répond, « Pas seulement toi, mais ceux qui m'écoutent. Le roi est touché et dit que cet homme pouvait être relâché, il parle de Paul, en disant « Cet homme n'a rien fait de mal. » Mais il n'y a rien qui dit dans le chapitre 26 que le roi a été sauvé. Alors Paul se présente devant le peuple d'Athènes, à Athènes, monsieur, madame, tout le monde, devant le gouverneur, la bourgeoisie. Le gouverneur représentait la bourgeoisie. Le milieu des affaires. Et devant le roi, le grand décideur de l'époque, on peut appeler ça notre gouvernement, et tous ont dit demain. Très peu ont été sauvés. Il y a des choses qui peuvent attendre, d'autres non. Ne soyez pas surpris quand les gens de votre entourage remettent à demain. Quand on leur parle de l'Évangile, ils sont habitués. Les gens achètent, ils vont payer demain. On veut savoir qu'est-ce qui va arriver de demain. On veut savoir le futur. La conscience remet nos erreurs au lendemain. On va commencer à faire de l'exercice demain. Alors, on est habitué à remettre ça à demain. On travaille pour la retraite de demain. Mais qu'est-ce que Jacques dit, chapitre 4, verset 13? « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » La Bible dit « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » N'attends pas à demain, donne ta vie à Jésus. Les gens sont affectés par la crise actuelle, les dommages que cela apporte. Aucune aide spirituelle, psychologique. Ils veulent une espérance demain, un vaccin demain. Mais le vaccin ne pourra pas sauver l'humanité. Alors que maintenant, il pourra avoir un réconfort en Jésus-Christ. Deuxième catégorie de personnes, les chrétiens. Vous savez, la plaie des grenouilles en Égypte touchait également le peuple de Dieu. Les Israélites étaient quand même touchés par cette plaie. Malgré que certains fléaux ne les ont pas atteints. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, comme j'ai parlé tout à l'heure, les souillures du monde, on est confronté au péché et aux souillures du monde. Et on doit faire attention de la façon que l'on vit. Parce qu'on peut être atteint par les souillures du monde. Et souvent, notre vie en est affectée, on remet ça au lendemain. Et il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu qu'il y a des chrétiens, il y a des gens qui ont remis des choses au lendemain. Des gens qui étaient sauvés, qui marchaient avec l'Éternel. Si on parle du fils aîné du roi David, Amnon, On voit ça dans 2 Samuel. C'est un homme violent et immoral. Au lieu de s'en remettre à la loi de l'Éternel, il se laisse dominer par ses mauvais instincts. Il jugerait peut-être les souillures du monde, les grenouilles dans sa vie. Il déshonore sa propre sœur et la chasse après. Et il ne manifeste aucun regret, aucune repentance comparé à son père. Montre là un signe de lâcheté et d'égoïsme. Il va être tué plus tard par son frère. Il a remis bien des choses à demain. Alors, faisons attention, frères et sœurs, quand on veut aspirer à la sanctification et à une marche chrétienne, de laisser certaines souillures du monde en dehors de notre vie. Sinon, dans Nombre, chapitre 32, verset 23, « Sache qu'un jour ton péché t'atteindra. » Combien de chrétiens laissent la vie chrétienne? Combien de chrétiens s'en retournent dans les choses du monde? Des chrétiens qui abandonnent les assemblées, des chrétiens qui abandonnent la parole de Dieu. Le livre d'Hébreux nous fait une mise en garde. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Un petit peu plus loin, quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, la séduction des souillures du monde. Qu'on puisse douter de Dieu. On parle d'incrédulité. On parle d'irritation, de la révolte contre Dieu, de la désobéissance. On est affecté par la... Comme en Égypte, on est affecté par les souillures du monde. On est affecté par d'une société mondaine. Et notre vie peut être très affectée, notre vie chrétienne. Et souvent, on dit, « Ah, demain, Seigneur, je vais régler ça. » Et Dieu ne peut rien faire. Tant aussi longtemps que l'on ne lui permet pas d'agir dans nos vies. Parce que ces souillures-là du monde vont aller plus vite qu'on est capable d'aller. Plus loin que ce qu'on peut penser. Puis va coûter probablement plus cher qu'est-ce qu'on peut payer. Alors, faut se débarrasser de ça. Comme je dis, laissons les grenouilles dans leur marécage, dans leur swamp. Les grenouilles, c'est bon pour le National Geographic ou des biologistes. Mais on peut pas vivre avec des grenouilles tout le temps, là. Puis même comme animaux domestiques, c'est pas vraiment intéressant.
Non. Puis,
avez-vous déjà vu des grenouilles dans un courant d'eau limpide? Non. Moi, comme qui est allé quand même souvent dans la mer des Caraïbes, en apnée, il n'y a pas de grenouilles. Les grenouilles sont dans les marécages, les poissons exotiques sont dans la mer limpide et claire.
Oui.
Le 8 mai 1902, à 8h02, 30 000 personnes sont tuées en Martinique dans la ville de Saint-Pierre, au pied du mont Pili, dans la colonie française. La cause fut l'éruption volcanique très violente. Des millions de tonnes de lave, l'éruption une semaine. On avait prédit l'éruption une semaine avant. Et cette éruption-là a tué beaucoup de personnes. Et on parle de stupidité de la part des autorités parce qu'on n'a pas pris ça au sérieux. Très dangereux pour l'Église, pour les gens de l'Église qui ont quitté leur assemblée en se disant qu'ils reviendraient à un moment donné. Et si je reviens à la crise qu'on vit présentement, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à travers cette crise en tant que croyant? Et je suis sidéré de constater que certaines églises sont au point neutre. Ah, nous sommes en ligne le dimanche. Mais ça ne veut pas dire qu'une église est en ligne, que c'est une église qui est très active. On va aller dans le texte du livre des Actes, Actes des Apôtres, le chapitre 5. C'est un petit peu long, mais je vais le lire quand même. Alors, dans le Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 17 à 33. Alors, les apôtres sont à l'œuvre et il y a des guérisons qui se font à Jérusalem, il y a des malades, il y a des esprits impurs qui sont chassés. Et regardez ce que c'est écrit. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Alors le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons cependant trouvé personne. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Ces gens-là étaient dans la prison. Le lendemain, ils sont en train d'évangéliser dans le temple. Quel zèle pour l'évangile! Je continue. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea à ses termes, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quel zèle pour l'Évangile! Les autorités disent non, le lendemain, ils enseignent et évangélisent. Et c'était au prix de leur vie. S'il y a un temps où l'Église doit être active, c'est maintenant. Les lieux de culte ne sont pas des commerces au détail. Beaucoup de personnes ont besoin de réconfort, ont besoin de suivi dans ces temps difficiles. Pensez-vous que c'est un petit virus qui aurait arrêté l'Église dans Actes des Apôtres? Sûrement pas. La motivation ne doit sûrement pas être la même aujourd'hui. Dans ce temps-là, le zèle... Aucune peur de prêcher l'Évangile. Mais qu'en est-il de nos institutions chrétiennes aujourd'hui, de nos leaders? Avons-nous cette même attitude où on fait comme, font comme le Pharaon a dit, nous verrons ça demain. Troisième catégorie de personnes, le gouvernement. Les autorités remettent à demain le confinement en disant qu'ils veulent le bien de la population, tout en sachant fort bien que les dommages collatéraux sont bien plus importants. J'écoutais récemment un médecin français disant qu'il fallait non seulement regarder les nombres de morts de la COVID-19, mais regarder également la mortalité et toutes les conséquences résultant de ce confinement pour la société qui, à son avis, était bien plus considérable. Et même des statistiques disponibles démontrent qu'il y a plus de morts, qu'il n'y a pas plus de morts que dans les années passées. Il y a toujours une façon d'opérer un système de santé, des commerces et le tourisme avec une stratégie bien établie. Nous avons tout le bagage nécessaire dans ce pays, et je dirais même plus dans le monde. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il remet à demain. Mais est-ce que demain va arriver? On avait parlé de ça en octobre, en novembre, en décembre, en janvier. Et le pharaon d'Égypte a fait la même affaire. Finalement, il a dit à Moïse, demain, mais le demain n'est jamais arrivé. Oui, Moïse a arrêté, mais Pharaon a changé son... qui représentait le gouvernement d'Égypte, a dit non. Et qu'est-ce qui est arrivé? Troisième plaie. Quatrième plaie, cinquième plaie. Est-ce que c'est la même chose qui va arriver? Est-ce qu'on va avoir troisième virus, quatrième virus? Est-ce que cela va continuer? Tout en sachant fort bien que c'est un virus qui est probablement fabriqué en laboratoire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce que l'on vit aujourd'hui, les amis. Ce que l'on vit, est arrivé en Égypte. Le pharaon a bloqué l'économie de l'Égypte. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a détruit les récoltes. L'eau potable, il n'y avait pas d'eau potable. La mort des premiers-nés sont continues. Et de son armée, ou une partie de son armée, pour satisfaire un égo sans pareil et une vénération aveugle à des divinités étrangères. Je vais vous expliquer. Ne vous demandez pas pourquoi les églises sont fermées, alors que c'est le contraire qui devrait se produire. Parce qu'en temps de crise, les gens recherchent une aide spirituelle puis un soutien psychologique. Mais remarquez bien quelque chose. Ce que les pharaons savaient que Moïse et son peuple voulaient aller faire des sacrifices. Mais pour les Égyptiens, les sacrifices des Hébreux étaient considérés comme des sacrilèges. Je vous donne un exemple, le taureau qui était sacrifié dans un sacrifice, on voit ça dans Lévitique. Pour un Égyptien, c'était le symbole d'Amon, le grand dieu de Thèbes. Et même la vache représentait la déesse Isis. Je vous ai parlé des quelques dieux qu'il y avait en Égypte, mais il y en avait plusieurs. Les sacrifices d'animaux n'étaient pas complètement ignorés des Égyptiens, mais eux, ils préféraient faire des offrandes végétales ou bien sacrifier des poulets. Et quand nous, croyants, nous voulons amener la vérité dans ce temps de crise, une espérance en Jésus-Christ pour les aînés, nous voulons nous rassembler dans des lieux de culte, être actifs dans la communauté, nous nous faisons dire par les autorités, je ne laisserai pas aller mon peuple, comme Pharaon. Pourquoi? Parce que nous allons contre leur Dieu satanique. En terminant, Dieu n'a pas garanti demain au temps de l'Égypte, il ne le garantit pas plus aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on s'en va vers une deuxième, une troisième vague On s'en va où, on ne sait pas. On sait qu'est-ce qui s'est préparé, qu'est-ce qui s'est fait en Égypte, mais qu'est-ce qui va se faire ici, on ne le sait pas encore. Et comme j'ai dit dans mes prédications passées, nous sommes rendus à la fin. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Les signes sont là. Le monde a besoin de la vérité, tout comme les Égyptiens. Les Égyptiens avaient besoin de voir les prodiges du Dieu d'Israël. Et le monde a besoin de connaître la vérité. Et en tant que chrétiens, nous ne devrions pas attendre à demain pour notre implication, nos finances, notre sanctification, notre cheminement chrétien et notre ministère dans la communauté. Quant au gouvernement, je crois que l'histoire se répète. Je ne sais pas comment il reste de demain, mais je peux vous dire une chose. Au ciel, ça ne sera plus le temps de dire demain. Au ciel, il n'y aura plus de demain. J'aurais donc dû. Non, c'est terminé. Et inversement, en enfer, ça ne sera plus le temps de dire demain. Il n'y aura plus de demain. Alors, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Amen. Amen.